France Culture.
Et vous êtes restés pour la suite des Midi. Bravo et merci. À 13h, vous pourrez réécouter ou découvrir l'entretien des Midi avec l'autrice américaine Suzy Morgenstern. Mais tout de suite, c'est le point culture de Marie Sorbier. Bonjour.
Bonjour Marie et bonjour à tous. Depuis 2019, le concours Voix des Outre-mer œuvre pour une mise en lumière des chanteurs ultramarins et travaille pour faire découvrir aux chanteurs de tous les territoires l'art de l'opéra. Alors la grande finale de la 8e édition du concours Voix des Outre-mer se tiendra jeudi, le 29 janvier à l'Opéra Bastille. Mais en attendant de découvrir ces nouvelles voix, on peut déjà regarder le documentaire de Thomas Mossineau et Gilles Moisset, disponible sur France TV, qui s'appelle L'Envol, trois voix d'outre-mer et qui suit notamment la chanteuse Axelle Saint-Cyrel. Comment susciter le désir de l'art lyrique dans les territoires ultramarins? C'est le dossier du Point Culture du jour. Marie-Laure Garnier, bonjour.
Bonjour Marie.
Vous êtes chanteuse, soprane et vous êtes la première lauréate du concours des grandes voix des Outre-mer. C'est un concours qui structure et qui révèle un réseau lyrique dans les territoires ultramarins. Vous, depuis, votre carrière s'est déployée, on va en parler, mais selon vous, pourquoi ces voix ultramarines restent-elles encore sous-représentées? Est-ce que c'est une histoire de récit culturel, de médias, d'institutions? Comment expliquer ça?
Alors, il faut reconnaître que dans nos départements d'outre-mer, malheureusement, il y a assez peu de représentation de chanteurs lyriques. Alors, avant moi, il y a eu Loïc Félix, il y a eu Magali Léger. Mais c'est vrai que dans les territoires eux-mêmes, on a peu ou pas de conservatoires dans lesquels on enseigne le chant lyrique. Et c'est vraiment pourquoi le concours Voix des Outre-mer a toute sa place dans ces départements et puis pour introduire tous ces beaux talents dans le monde lyrique national et international.
Et est-ce que ce manque d'infrastructures est en train de changer? C'est vrai que le concours a notamment révélé ce manque-là. Est-ce que vous avez l'impression que dans les territoires, il y a justement des structures qui commencent à se créer?
Alors, il y a déjà des structures, par exemple, en Guyane, il y a un conservatoire. En Martinique, il y a aussi un élan de conservatoire. En Polynésie, il y a aussi des choses. Donc maintenant, ce qu'il faut, c'est renforcer ce qui existe et insuffler justement une nouvelle énergie là où c'est encore nécessaire. Il n'y a pas de conservatoire à Mayotte, il n'y en a pas en Guadeloupe non plus, mais on sent qu'il y a des initiatives à l'instar des Voix des Outre-mer qui justement essayent de mobiliser tous ceux qui sont intéressés et appelés par le chant lyrique. Mais maintenant, force est de constater que malgré les bonnes énergies, il faut aussi une dynamique nationale, politique, qui permette vraiment à tout un chacun de pouvoir s'intéresser à cet art et potentiellement en faire un métier. Je pense que pour qu'on ait de plus en plus de représentations dans nos outre-mer et que ces voix soient représentées à l'international, il faut vraiment des chanteurs. À la fois des chanteurs qui brillent dans leur carrière, mais aussi des chanteurs qui ont le désir de revenir dans les territoires pour, à leur tour, pouvoir transmettre. Mmh. Donc c'est vraiment un mouvement qui doit être général. Et moi, je salue énormément Fabrice Di Falco et Julien Leleu, qui se donnent depuis 9 ans maintenant pour pouvoir sillonner tous les territoires sans aucune exception, de Saint-Pierre-et-Miquelon à Tahiti. Je pense que c'est vraiment remarquable le travail qu'ils font, parce qu'ils vont donner des masterclass gratuitement. Ils vont vraiment à la rencontre de ceux qui sont intéressés. Parfois, les chanteurs n'ont jamais chanté un air lyrique, n'ont même pas découvert leur voix. Et c'est vraiment cette énergie grandissante au fil des années qui permet à des personnes jeunes et moins jeunes d'essayer. Peut-être qu'ils n'en feront pas leur métier, mais ils ont tout autant le droit d'y goûter, de découvrir leur voix, de découvrir la puissance et à la fois le côté intime de ce que représente une voix chantée. Voilà, je trouve que c'est finalement trouver sa voix, V-O-I-X pour trouver sa voix, V-O-I-E. Moi, je remarque qu'il y a de plus en plus d'ultramarins qui viennent en France hexagonale pour pouvoir se former. Livia Louis-Joseph Deguet, qui était à mes côtés lauréate de la première édition, fait un parcours magnifique. Elle a été primée à Voix Nouvelle. Elle est maintenant dans la grande famille des générations opéra. Donc, on voit aussi que Voilà, il y a du potentiel et quand il est accompagné parce qu'il a été détecté dans les jeunes années, eh ben ça donne quelque chose d'extrêmement prometteur. Et je parle d'Olivia, mais je pourrais en parler d'autres également. Mais je pense que c'est vraiment une initiative qui doit continuer à être soutenue et qui doit être également encore plus grande grâce aux politiques et grâce aux structures, aux infrastructures qui vont, je l'espère, être mises en place.
Vous parliez, Marie-Laure Garnier, du désir et du fait qu'être chanteuse lyrique peut être un métier. Comment ça s'est passé pour vous? Comment vous avez découvert votre voix? Qui sont les personnes ou les voix qui vous ont guidée?
Alors, il y en a eu plusieurs, parce que je le dis souvent, moi, je viens de l'instrument, j'étais flûtiste. Et au Conservatoire de Paris, mes professeurs m'ont soufflé à l'oreille que j'avais une voix intéressante et que ce serait intéressant de la travailler pour voir ce que ça pourrait donner. Et j'ai écouté leurs conseils et c'est vrai que tout au long de ma route, j'ai eu de nombreuses personnes qui m'ont accompagnée. Alors, ma première prof de chant, Sophie Geoffroy de Chaume, puis Malcolm Walker, puis d'autres professeurs, pianistes, chefs de chant, chefs d'orchestre. Récemment, enfin, il y a quelques années maintenant, j'ai rencontré Pierre Bleu, j'ai rencontré Clément Mahotakatch. Ce sont toutes ces personnes, tous ces professionnels qui nous aident à grandir, qui nous accompagnent dans nos aspirations, dans les moyens de les réaliser. Et après, il y a aussi notre appétence pour ce répertoire, pour cet art. Qui on a envie de devenir, qu'est-ce qu'on a envie de faire, quel répertoire on a envie de chanter. Donc, c'est une construction au long cours. Hein, il faut vraiment être clair là-dessus. On ne devient pas chanteur lyrique en un an. Il y a beaucoup de travail. Mais il faut évidemment avoir cette volonté, d'une part, d'être bien entouré, hein, être à l'écoute, mais aussi avoir du discernement pour pouvoir savoir si vraiment les conseils que je reçois, ils me conviennent. Est-ce que j'ai vraiment envie de travailler avec telle ou telle personne? Et si c'est pas le cas, il faut s'autoriser aussi à changer. Il n'y a pas de drame là-dedans. Mais voilà, il faut à la fois avoir cette envie et puis avoir les bonnes rencontres, passer des concours, c'est important. Il faut se faire entendre, il faut se faire remarquer. Et puis après, le chemin s'ouvre, il se déploie. Mais tout au long de notre carrière de chanteur, je crois que il n'y a pas de secret, le travail fait beaucoup.
Alors la finale de cette 8e édition des Grandes Voix des Outre-mer aura lieu cette semaine, le 29 janvier.
Tout à fait.
Et également en direct sur France 4, c'est important de le dire parce que ça permet une médiatisation bien sûr bien plus grande.
Absolument.
Et vous, on vous entendra chanter avec d'autres voix du dispositif, ce sera en juin au Théâtre des Champs-Élysées, dans une œuvre de Georges Gershwin. Peut-être pour finir quelques mots sur cette œuvre-là.
Alors, Porgy and Bess, c'est un opéra très connu de Gershwin, effectivement. Il a la particularité d'avoir été créé dans un climat ségrégationnaire aux États-Unis. Et donc, Gershwin a décidé que de son vivant et bien après, eh bien, cet opéra ne pourrait être chanté que par des chanteurs de couleur. Donc, voilà, aujourd'hui, nous proposons, avec les Voix des Outre-mer et les Grandes Voix, un casting qui n'est pas exclusivement français, mais qui permet aussi d'entendre des jeunes voix françaises pour pouvoir incarner les rôles de Serena, de Clara, de Maria. Et je crois que c'est aussi important quand on sait que Porgy and Bess est un opéra qui est beaucoup donné dans le monde, mais pas forcément avec des chanteurs français, de souligner tout simplement que ces voix-là existent et qu'il est bon, il est de bon ton de les engager pour Porgy and Bess, mais aussi pour d'autres rôles, évidemment.
Merci beaucoup, Marie-Laure Garnier.
Merci à vous.
Et dans le reste de l'actualité culturelle, Marie, on a appris la mort de la galeriste américaine Marianne Goodman à l'âge de 97 ans.
Oui, considérée comme l'une des plus grandes galeristes au monde, elle avait exposé des artistes à la renommée internationale tels que Joseph Beuys, Gerhard Richter ou encore William Kentridge. Rare femme de sa génération à avoir eu une place dans un monde de l'art dominé par les hommes, elle avait débuté sa carrière en 1965 en créant une maison d'édition avant d'ouvrir sa galerie d'art en 1977 à New York. Considérée comme une pionnière, Marianne Goodman était une figure très respectée de l'art contemporain, tant pour la qualité de son regard que pour sa fidélité envers ses artistes.
Et pour finir, Marie, le monde de la recherche proteste contre la suspension du programme PAUSE pour les Gazaouis.
Créé en 2017 sous la houlette du Collège de France, le programme PAUSE permet d'accueillir en France des scientifiques et des artistes en provenance de pays où l'instabilité politique les empêche de mener à bien leur travail. Mais les prochains appels à candidature vont à présent exclure les chercheurs et artistes originaires de Gaza. Face à ce blocage, une tribune déjà signée par plus de 500 personnalités du monde de la culture et de l'enseignement supérieur appelle le gouvernement à revenir sur cette décision.
Merci Marie, on se retrouve demain.
À demain.
Pour de nouvelles actualités culturelles. En attendant, eh bien, il est 13h et vous écoutez France Culture.